France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Forcément, à un moment, ça dégénère, que celui ou celle qui n'a jamais connu ça en famille ou au bureau nous jette le premier bulletin de vote, parce que la présidentielle, on en parle, et rarement très calmement. Moi, je vais voter utile, mais enfin, utile, ça veut dire quoi? T'es complètement irresponsable. Moi, je vais plutôt par là, mais enfin, depuis quand? T'as lu son programme? Moi, au second tour, j'y vais pas. Eh ben, merci de me laisser faire le sale boulot. La présidentielle, c'est l'élection qu'on commente le plus entre nous, c'est vrai de tout temps. C'est aussi celle qui irrite le plus quand on n'est pas d'accord. Et voilà qu'on découvre qu'un ami va voter pour quelqu'un qui vous fait horreur. Voilà qu'entre deux biscuits apéro, vous vous retrouvez tout seul devant quatre abstentionnistes. Voilà que votre famille ou vos collègues sont comme une mini-France. Mêmes questions, mêmes indécisions, mêmes hésitations. Savez-vous que la politique, comme la religion d'ailleurs, c'est ce qui se transmet le plus en famille, et que c'est en famille qu'on en parle plus qu'en tout autre lieu. Alors, est-ce qu'on se fâche plus en cette année si particulière? Est-ce que le désintérêt que l'on sent dans cette campagne fait que même en famille, le sujet a parfois été zappé, trop morne, disent certains, trop désincarné pour d'autres, trop écrasé par l'Ukraine aussi? Voilà qui nous aidera à comprendre l'état d'esprit qui est le vôtre et le nôtre à 3 jours seulement du vote. Essayons tout ça ensemble, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Jérôme. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Fabienne. Je suis heureux de pouvoir vous dire que j'aime beaucoup votre émission et votre professionnalisme.
Eh bien, merci beaucoup.
J'ai au moins eu l'occasion de dire ça.
Vous n'avez pas de questions, du coup, Jérôme. Allez-y.
Non, c'est pas vraiment une question. J'ai pris pour vous cette question, un témoignage que vous cherchez. Ben, dans ma famille, on parle beaucoup de cette élection entre moi, mes enfants, mes frères, moi aussi avec mes amis, avec des opinions très, très contrastées. Je ne dirais pas que ça va d'un extrême à l'autre, mais pas très loin. Non, on ne s'engueule pas, c'est passionné. Il y a une vraie recherche de vérité, je pense. C'est sincère, les uns, les autres sont sincères. Ne s'arrête pas juste à la figure de chacun de ces personnages politiques, mais c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Donc on essaie d'argumenter, on essaie de construire une argumentation, d'explorer les programmes des uns et des autres, sans forcément arriver à se convaincre. Je dois être honnête, hein, il y en a assez peu qui bougent, mais il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de rupture.
Et est-ce que vous êtes vraiment très éloigné, vous disiez pas tout à fait d'un extrême à l'autre quand même, parce que c'est souvent de ces côtés-là, que c'est quand on est dans ces situations-là que la situation dégénère. Donc est-ce que, j'ai une double question pour vous avant de vous laisser, Jérôme, est-ce que vous êtes vraiment très éloigné les uns des autres? Et surtout, est-ce que vous êtes désormais dans un vote différent, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, en fait, en famille?
Alors on était déjà dans des votes relativement différents. Ça s'est peut-être un peu accentué. Alors, je crois que je n'avais pas le droit de prononcer des noms.
Bah, vaut mieux pas, mais vous allez pouvoir nous le faire comprendre. On va bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire.
Non, alors je dirais que ça ne va pas jusqu'à l'extrême gauche, voilà. Mais ça va bien à gauche, d'un côté, et ça va jusqu'à ce qui est qualifié aujourd'hui en France d'extrême droite.
D'accord. Voilà. Ah oui, donc vous avez un très très beau panel. Je vous souhaite de très joyeux déjeuner.
Ce n'est pas mon opinion, personnellement, je n'ai pas le droit de le dire, ce n'est pas grave. Mais j'aime discuter avec les uns et les autres, y compris avec mes propres enfants qui ne partagent pas mes opinions. Mmh. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile d'arriver à se comprendre, c'est difficile d'arriver à s'expliquer pourquoi on croit ou on ne croit pas ou telle chose, pourquoi on a tel espoir. Il y a aussi, je pense, on met pas le même focus les uns et les autres sur les mêmes points. Mmh. Un de mes enfants est très, très touché par tout ce qui se passe au niveau climat. Ouais, donc il va accorder une importance extrême aux candidats qui parlent du climat. Un autre est beaucoup plus concerné par l'économie, par celui qui semble garantir le mieux le devenir économique de la France. Donc en fonction des centres d'intérêt, et des focus, excusez-moi si le mot n'est pas très correct, les attachements se cristallisent autour de ça.
Et on a compris. Merci beaucoup, Jérôme. Merci vraiment pour cette jolie entrée en matière, pour discuter ensemble et ne pas s'engueuler. Donc, jusqu'à 20h. Adélaïde Zulfika Parazik, pardonnez-moi, ça doit vous arriver tellement tout le temps.
Pas souvent.
Adélaïde Zulfika Parazik, vous êtes directrice du département opinion de l'Institut de sondage BVA. J'ai sous les yeux la dernière note d'analyse qui est la vôtre et c'est vraiment passionnant. On y jettera vraiment un œil. Bonsoir Bruno Cotterès.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. Il y a quelque chose dans ce que nous dit Jérôme sur lequel j'aimerais qu'on puisse rebondir. Il nous disait que chacun avait un spectre politique qui pouvait être large et moi j'ai plutôt le sentiment, Bruno Cotterès, tout ce qu'on lit dans les études, c'est que, et c'est ce que tu disais en introduction, la politique, c'est ce qui se transmet le mieux, en fait. Et je me demandais si cette situation qui est celle de Jérôme était presque nouvelle, en fait, pas seulement pour cette élection, mais les précédentes, que quelque chose qui était beaucoup plus limpide autrefois, on est une famille de gauche, on est une famille de droite, on a une histoire de droite ou une histoire de gauche.
Alors ça reste assez vrai quand même. Il y a beaucoup de transmissions intergénérationnelles. Il y a beaucoup de, on va dire qu'il y a beaucoup de codes génétiques politiques quand même dans une famille. Les parents arrivent à transmettre un ensemble de valeurs, de croyances qui sont quand même des marqueurs très importants dans la vie de chaque citoyen et qui unissent quand même beaucoup les familles à travers quelque chose qui va bien au-delà du vote, qui sont véritablement les systèmes de croyances, les systèmes de ce qu'on appelle nous les attitudes politiques qui unissent quand même beaucoup les membres d'une famille, mais c'est vrai qu'à l'intérieur d'une famille, on peut avoir des sensibilités, voire des tempéraments politiques assez différents, et c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où on votait en famille.
C'est ça.
À une époque, c'est vrai qu'on votait comme un seul homme, si je puis dire, à l'époque en particulier où le droit de vote n'était que masculin, et on votait non seulement comme un seul homme, mais souvent on allait dans la France des villages voter comme une sorte de cérémonie. Donc c'est vrai que le vote, c'est aujourd'hui diversifié, autonomisé par rapport à la structure familiale, mais quand même à l'intérieur de la structure familiale, on trouve beaucoup de croyances communes.
Adélaïde Zulfi-Karapazi, il y a autre chose dans ce que dit Jérôme qui m'intéresse. Il dit moi, mon fils, il est plutôt dans cette direction-là, puis l'autre, il est plutôt dans cette direction-là, donc chacun son candidat. Et peut-être que c'est précisément ça le souci de cette campagne, c'est que personne ne s'est retrouvé dans un, même pas, je lisais d'ailleurs dans votre étude, même pas à 51% au moins, en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui est le plus problématique.
Alors, mais ça rejoint ce que disait Bruno à l'instant, c'est que certes, le poids de la famille, enfin la filiation familiale dans le poids du vote reste importante, mais on observe aujourd'hui, dans toutes les formes d'engagement d'ailleurs, une individuation croissante des choix et de plus en plus, on a une articulation entre des préoccupations individuelles qui viennent rencontrer un écho dans une approche plus collective. Et c'est pour ça aussi que maintenant le vote se fait de plus en plus et de plus en plus arrimé aux affects de chacun, aux émotions de chacun.
Pour répondre à sa question en fait. Et si
exactement.
On répond pas à ma question, alors potentiellement j'y vais pas.
Voilà, exactement. Et donc on voit bien, et c'était très clair dans la famille de votre auditeur, avec un fils qui est plus sur des préoccupations environnementales, un autre qui est plus sur des préoccupations économiques. On voit ça très, très clairement. Et c'est vrai que du coup, les Français ont eu le sentiment pendant cette campagne, en tout cas jusqu'à un moment très tardif, que les candidats ne prenaient pas la mesure de ce qui les touchait eux personnellement. Et c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qu'on voit aussi quand on travaille sur l'abstention. On voit bien que un des leviers maintenant, c'est ce sentiment que le vote ne change rien à mon quotidien, à ma vie. Et donc on a ce besoin vraiment qu'un candidat vienne me parler de moi et de mon futur au sein d'un collectif. Certes, mais d'abord de moi en tant qu'électeur.
Et est-ce que c'est ça que certains citent l'idée d'une campagne désincarnée, en fait ? Est-ce que vous diriez que ça veut dire ça, la campagne désincarnée, ou c'est qu'elle manque aussi d'une figure qui peut-être suscite une forme d'adhésion ? Maintenant, je ne sais pas, Bruno Cotrez, vous m'arrêterez si je me trompe, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu ces derniers temps quelqu'un qui pouvait incarner d'ailleurs une forme d'adhésion de ce type-là.
Oui et non, désincarnée, ça peut être aussi le fait que cette campagne n'a pas trouvé la grande question.
Oui, c'est
à laquelle une élection présidentielle doit répondre. L'élection présidentielle, c'est ça qui la caractérise. Elle doit répondre à une très grande question, qui est une question profonde. Où va le pays? Que faisons-nous ensemble, unis dans une communauté nationale? Mais où est-ce que cette communauté nationale va? Et quel est le grand choix qui, pendant 5 ans, va rythmer la vie publique, les grandes décisions politiques? Et c'est vrai qu'à l'automne, par contre, on a eu un élément de départ, au moment où on a à la fois la percée dans les enquêtes d'opinion d'Éric Zemmour, où on a la primaire des Républicains, on a eu la primaire des écologistes. Donc on a eu un moment donné quand même où il y avait beaucoup de signaux qui étaient envoyés par la vie politique en direction des citoyens pour leur dire, bah voilà, il y a des thèmes dont il faut débattre. Et c'est vrai que cette campagne, elle a très vite été percutée par un triple choc, le choc du retour du Covid, qui nous a jamais fondamentalement quittés, le choc de la guerre en Ukraine et le troisième choc de ses conséquences économiques avec la préoccupation sur l'énergie, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a obligé ce débat à être relativement restreint dans ces grandes thématiques.
Ce qu'on vous dit, Adélaïde Zulfi-Karapazi, c'est notamment aucun événement n'a marqué les esprits. Et en fait, moi, je serais assez curieuse de savoir si on descend dans la rue 3 jours après le second tour et qu'on demande aux gens c'était quoi le grand thème de cette campagne 2022. Est-ce que vous pensez qu'on saura répondre à cette question?
Pour l'instant,
même moi, j'aurais du mal, je crois.
Ouais, on a du mal à y répondre. Ouais. La note que vous évoquez, c'est la note qu'on a produite qui sera diffusée demain sur le site de Terra Nova, qui est un think tank qu'on accompagne depuis le début de la campagne à travers une communauté de Français qui ont fait justement dialoguer, discuter sur cette campagne. Et c'est vrai que là, on les a interrogés dans les deux derniers jours sur un peu le bilan de cette campagne. On leur a posé clairement cette question-là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Il y a quasiment rien. Ils ont cité les sondages, c'est pour vous dire.
Oui, c'est intéressant.
Certains meetings.
C'est un peu le diable qui se mord la queue.
Ils ont parlé de petits événements autour de candidats, mais vraiment de micro-événements. Il y a l'affaire McKinsey qui a été très rapidement évoquée parce que c'est la plus fraîche, mais on est passé très vite à autre chose. Et on a plutôt l'impression, voilà, d'une petite polémique qui en chasse une autre, mais il n'y a pas d'événements marqueurs, d'événements. Alors, si on leur pose la question, sans doute qu'ils vont parler du pouvoir d'achat parce qu'ils ont entendu que c'était la thématique de la campagne. Mais en tout cas, il n'y a pas d'événements fondateurs, structurants. Alors même, c'est ça qui est frappant, qu'on sort de la crise sanitaire, qu'il y a des thèmes qui ont émergé comme étant très structurants. Je pense à la question de la santé, de l'hôpital public. Et pour autant, ils ne sont pas venus structurer les débats de cette campagne.
Non, mais même la guerre en Ukraine, au fond, aurait pu structurer ces débats parce qu'elle nous parle aussi de pouvoir d'achat à cause de l'énergie, parce qu'elle nous parle de réfugiés, parce qu'elle nous parle de tout ça. Et c'est vrai que ça l'a pas accroché. Bruno Cotterêts, avant de retourner au Standard, on est arrivé dans cette campagne dans une France divisée, dans une France qui sortait du Covid, alors qui sortait de cette chape de plomb. Mais on a vu aussi, il y a eu des manifestations, il y a eu de l'antipasse, de l'antivaccin, des débats comme ça qui étaient des débats extrêmement forts. Est-ce que c'est aussi parce qu'on arrive un peu dans cette espèce d'épuisement de colère, j'allais dire, n'exagérons rien, mais en tout cas d'antagonisme qu'on est là dans la campagne actuelle?
Je pense que c'est une des caractéristiques vraiment majeures de cette élection présidentielle. Elle aboutit, elle arrive après une succession de crises depuis l'automne 2018. Crise pratiquement sans fin. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'horizon à cette crise et que une crise en chasse une autre. Et donc ça introduit dans l'opinion effectivement des éléments à la fois de confusion, de lassitude, de colère peut-être aussi un peu rentrée, le sentiment qu'il n'y a pas eu de vrais débouchés politiques et de vraies réponses aux colères qui se sont exprimées à un moment donné. Et c'est vrai que cette accumulation de crises, cette sédimentation de différentes crises qui se sont succédées, fait que beaucoup d'électeurs ont beaucoup de mal à voir clair de ce qui se passe, des propositions qui sont faites. Et il y a un véritable état de confusion dans le pays, non seulement de confusion, mais aussi, on verra au cours des deux dimanches électoraux, mais il y a aussi un peu un sentiment d'impasse qui s'est manifesté à plusieurs moments des dernières années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'alternative.
Écoutez cette question d'Anouk sur franceinter.fr qui est vraiment intéressante, cette remarque. Elle dit « Dans ma famille, on avait l'habitude de beaucoup parler politique, surtout à l'approche des élections. Cette année, on ne parle plus, on est tous un petit peu déprimés, on est plutôt à gauche, mais avec des petites différences quand même. On a toujours adoré débattre en famille. Cette année, on ne sait pas de quoi débattre. » Et c'est vraiment intéressant. On sait pas quoi dire, en fait. Donc du coup, on sait même pas sur quoi on s'engueule, finalement.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre auditrice, elle dit que sa famille est plutôt de gauche et on voit bien que ce désarroi qu'on évoque là depuis le début de l'émission, il est caractéristique des électeurs de gauche face à une offre qui est jugée insatisfaisante, et on les sent vraiment perdus, les électeurs de gauche. Pendant toute la campagne, on les a sentis perdus. On s'approche du scrutin, ils le sont encore. Alors, ils commencent un tout petit peu à cristalliser leur choix, mais ils ont l'impression d'être un petit peu pris en otage, qu'on leur a confisqué l'élection, qu'ils ne peuvent pas se projeter sur des débats de fond et qu'ils ont le choix entre peut-être voter utile ou peut-être voter pour leurs convictions, mais que voilà, ils se sentent complètement empêtrés et déçus, et ça reflète bien ce que dit votre auditrice.
Bonsoir, Laure.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, avant de commencer, Fabienne Santès, je voulais vous remercier parce que pendant le premier confinement, vous avez vraiment été ma bouffée d'oxygène. Je vous attendais tous les jours à 18h et pendant les 3 mois, vous avez été mon rendez-vous quotidien.
Ben, moi aussi, je vous attendais, Laure. Merci vraiment, merci à vous. On vous écoute.
Je vous en prie. Alors, moi, si j'ai trouvé un sujet de dispute dans ma famille, c'est à propos des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou alors qui s'abstiennent. C'est un sujet, alors là, je me prends la tête en ce moment avec pas mal de personnes à mon travail et dans ma vie personnelle, parce que je trouve ça, je comprends pas. On a un droit de vote, on peut s'exprimer, certes, on s'exprime que tous les 5 ans, enfin quand même, mais c'est un droit qu'on a, il y a des gens qui sont battus pour l'avoir, et non, ça me...
et est-ce que, visiblement, visiblement, vous peinez à les convaincre, surtout. Alors, c'est sujet de dispute, mais visiblement, en plus, ils changent pas d'avis, en fait.
Ah non, ils changent pas d'avis. Alors, parce que ça sert à rien, parce qu'ils ont pas que ça à faire, parce que, non, mais voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. En plus, je suis prof d'histoire, donc j'ai un peu ça chevillé au corps, quoi. Je trouve ça, j'arrive pas à comprendre qu'on n'aille pas voter. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage. Moi, je trouve ça intéressant, Bruno Cotterêts, au fond, parce qu'on ne sait pas de quoi discuter politiquement, comme le disait l'auditrice précédente. On est un peu perdu. En revanche, finalement, le pic et le chiffre, c'est celui-là, en fait. C'est celui des potentiellement 30% d'abstention.
Bah oui, puis c'est vraiment intéressant dans ce que disait l'auditrice. Effectivement, le rapport au vote, ça parle de quelque chose de très profond. Au fond, c'est le rapport à la citoyenneté, bien sûr. Ça va même bien au-delà. Il y a vraiment, à travers le vote, quelque chose de plus que le vote qui se joue. C'est une dimension proprement anthropologique de nos sociétés. C'est un marqueur du lien social. C'est un marqueur d'appartenance à la communauté. Et alors, évidemment, dès qu'on touche à ça, ça introduit des discussions tout à fait passionnées, passionnelles. Par exemple, il y a une discussion tout à fait passionnée en France sur la reconnaissance du vote blanc. Voilà, beaucoup disent, il faut absolument reconnaître. Et puis d'autres disent, mais non, c'est absurde de reconnaître le vote blanc. Donc il y a vraiment une discussion passionnée là-dessus. Et c'est vrai que ce petit rectangle de papier qu'on appelle le bulletin de vote, dont les dimensions sont fixées par le code électoral, 105 mm sur 148 mm, eh bien, il introduit beaucoup de passion dans les discussions parce qu'à travers ce petit rectangle, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui se joue, le rapport à la communauté politique, le rapport à la citoyenneté, et certains disant, ben non, au fond, ils s'occupent pas de moi, donc je m'occupe pas d'eux.
Et pour rebondir là-dessus, Adélie Xulfi-Karapassi, il y a ce mot, moi, qui m'a frappé dans l'étude BVA pour Terra Nova dont vous parliez, il y a le mot corvée. En fait, il y a des gens qui disent oui, voter comme une corvée. Ce qui est, moi, ça me semble assez neuf, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment neuf d'employer ce mot corvée?
Je dirais que c'est assez neuf également. Moi aussi, même si effectivement on sent une fatigue démocratique depuis un certain temps, mais elle est accentuée ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose qui est rendu plus prégnant par le contexte qui est d'une campagne qui n'a pas. Voilà, on l'a dit, une campagne qui n'intéresse pas de projet aspirationnel, pas de candidat qui. Et donc dans ce contexte-là, on a le sentiment qu'on est un petit peu obligé d'aller voter. Mais ce que je trouve quand même intéressant, alors on a deux lectures un petit peu de cette notion de corvée, c'est que néanmoins, les gens me disent, je dois le faire passer, ça va confiner à la corvée, mais ils vont quand même le faire. Il y a quand même une partie de l'électorat, et on a travaillé avec Bruno Cotterêts sur cette question-là, il y a quand même aujourd'hui, 6 Français sur 10 qui considèrent encore que voter est un devoir et que c'est un devoir qu'il faut accomplir. Donc je trouve ça quand même intéressant ce rapport au vote qui reste quand même. Alors même si on sent dans la jeune génération que ce n'est plus le cas, les jeunes ils sont à 50-50 sur est-ce que c'est un droit dont je peux user en fonction de mon envie, de mon humeur, de l'élection. Mais voilà, chez les Français, ça reste encore un devoir. Et par rapport à ce que disait votre auditrice, elle parlait des gens qui n'étaient pas inscrits, des gens qui s'abstiennent. Il y a des logiques qui sont un peu différentes. Chez les abstentionnistes, il y a vraiment un sentiment d'inutilité du vote. Ça sert à rien, je le disais tout à l'heure, ça change pas mon quotidien. Voir en ce moment, on nous dit les jeux sont faits. Chez les non-inscrits, on est à une mise à distance beaucoup plus forte, qui est vraiment presque, voilà, ça confine presque au désintérêt, ou en tout cas à l'éloignement réel.
Lise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, en fait, je suis d'accord avec la personne précédente sur le fait que je suis un peu dépitée de voir les personnes qui ne veulent pas aller voter parce que, pour le coup, moi, ça m'intéresse et je sens vraiment qu'il y a un enjeu à choisir une direction pour le pays. Et pour le coup, l'offre qui est en présence, hein, si les sondages sont vrais, ça me paraît être un choix prépondérant. On a 3 directions proposées, après pas dans les nuances que tout le monde voudrait, mais voilà, ça c'est pour le premier point. Toujours sur l'abstention, certains collègues me disent oui, nous on a eu l'impression de ne pas avoir eu de choix ces dernières années, que c'était un peu joué et présenté comme tel d'emblée. Donc chez les trentenaires, on sent un peu ça. Maintenant, moi ce que je voulais dire, ce pourquoi j'avais appelé, c'était par rapport à la question de l'enfermement peut-être idéologique qui se produit, ou en tout cas par rapport aux candidatures, du fait des algorithmes qui nous concentrent sur Internet, toujours sur le même candidat, et que la meilleure façon de s'ouvrir, c'est d'aller voir tous les programmes proposés par tous les candidats. Et c'est une base base d'échanges et de dialogues intéressants avec toutes les personnes avec lesquelles on a discuté en fonction de leur centre d'intérêt et de leur centre de leur préoccupation, parce que chaque personne, en fonction de son âge, de son... Voilà, c'est un petit peu... Et du coup, je trouve que c'est une bonne base d'échange pour ouvrir un vrai dialogue, et c'est ce qui est intéressant dans ce moment...
Particulier qu'on est en train de vivre.
Voilà, c'est l'occasion de parler de tous les aspects, de la petite enfance jusqu'à ce que devient le bac, jusqu'à comment on va soigner les personnes âgées que nous deviendrons tous. Et je trouve le moment tellement passionnant. Je me dis sans doute les médias doivent plus animer encore ce débat de manière thématique. Et peut-être au lieu de citer de manière limitée les personnes qui sont un peu, peut-être aborder plus des soirées, pour ceux que ça intéresse, au moins chaque soir une thématique, vous le faites un peu évidemment sur France Inter, vous le faites même beaucoup, mais de manière avec un grand rendez-vous peut-être sur le service public qui permettrait d'aborder chaque thématique. Et de manière objective.
On a entendu Lise, merci beaucoup. Bruno Cotresse, ce que j'entends aussi en creux dans ce que dit Lise, et c'est vraiment le mal de l'époque, je crois, c'est que chacun va chercher de toute façon midi à sa propre porte, c'est-à-dire ne va chercher d'informations que sur ce en quoi il croit déjà, sur ce qu'il pense savoir déjà, sur ce qui l'intéresse déjà. Et elle a raison, Lise, ouvrons cet éventail. Et en même temps, c'est vrai que, exactement comme notre auditeur précédent d'ailleurs, qui disait « mon fils va chez les Verts, l'autre va chez les économistes », au fond, nous n'allons tous que exclusivement vers notre précaré. C'est un peu le mal du moment, ça, non ?
Oui, c'est vrai qu'il y a ce mal du moment, et c'est vrai qu'il a accentué aussi du fait que on est soumis les uns et les autres à un flot d'informations non-stop. On est en campagne électorale permanente, d'une certaine manière. Il est devenu très difficile pour les acteurs politiques eux-mêmes de poser la limite qui est qu'est-ce qu'on dit hors campagne, qu'est-ce qu'on dit pendant la campagne, puisqu'on est en campagne pratiquement permanente. Il y a beaucoup d'émissions politiques dans les médias. C'est une très bonne chose pour la qualité du débat démocratique en France. Mais ça rend le tableau plus difficile à lire pour les électeurs. Et c'est vrai qu'en plus s'ajoute cette segmentation qui est qu'on va aller rechercher de l'information chez ceux qui vous ressemblent ou dans les médias qui vous plaisent parce qu'ils correspondent à votre système de valeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et là, on a, à travers le témoignage de Lise, on a le modèle du bon citoyen qui a envie de lire les programmes, qui a envie de s'intéresser à la campagne. Normalement, il faut le rappeler, c'est le rôle principal d'une campagne électorale. Les citoyens n'ont pas le temps dans leur vie de tous les jours de lire les programmes, de s'intéresser à la politique, de suivre de près. Et la campagne, elle est là pour leur proposer une réduction de cette complexité. Les hommes et les femmes politiques, les candidats aux élections, ce sont des facilitateurs de ce point de vue-là qui expliquent avec une gamme de mots, avec certains concepts, l'univers compliqué de la politique. Normalement, c'est ça à quoi
dans monde idéal, il y a de la nuance, et dans le vrai monde, c'est nettement plus compliqué. Adeloud Zulfi Karapazic, il y a une chose que j'ai découverte, moi, en préparant cette émission, c'est ce qu'on appelle le walkfishing. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est la dissimulation des idées, en fait. Est-ce que vous voyez ça dans vos panels ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées qu'on ne dit pas, notamment quand on va vers les extrêmes. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qui rend parfois le travail des sondeurs très compliqué, mais on ne dit pas en famille, au bureau, et quand on en discute, quand on va s'orienter vers un vote extrême, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous le sentez ça dans vos études, est-ce que ça effleure ?
Alors pas vraiment, mais ça tient un point que vous soulignez à l'instant, c'est sur la façon dont les sondeurs travaillent. Et c'est vrai que comme de plus en plus maintenant les enquêtes sont réalisées par Internet, vous n'avez plus la tentation de ce que vous appelez maintenant le walkfishing, et qui était un peu le sujet tabou de masquer une idée ou une orientation politique, qui était le cas quand on s'adressait à un enquêteur en face à face ou par téléphone. Donc maintenant les gens ont quand même plus tendance à pouvoir déclarer ce qu'ils ont à dire, et donc on le perçoit pas trop. On a plutôt l'impression au contraire qu'il y a moins de tabous.
Alors voilà, c'était le sens de ma question aussi. Est-ce qu'il y a eu pendant longtemps, il y a une barrière de 2002, non, probablement on va tous être d'accord là-dessus. là-dessus, Bruno Cotterêts. Est-ce que aujourd'hui, on donne son opinion, y compris le plus extrême, de manière beaucoup plus détendue qu'on le faisait autrefois? Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux là-dessus?
Complètement.
Oui, je pense tout à fait. On n'est plus du tout dans cette époque où effectivement, il y avait des votes qui étaient très, très, très clairement sous-déclarés. À une époque, c'était vraiment le cas avec, par exemple, le Front National. Ça a été le cas à d'autres époques avec le Parti communiste. On n'est plus du tout. Et c'est vrai que, comme Adélaïde le souligne, le changement technologique qui a consisté à réaliser les enquêtes par Internet rend cet obstacle pratiquement complètement neutralisé.
Que j'allais dire qu'à l'inverse, on craint presque que les idées les plus extrêmes, les plus un peu provocatrices, puissent être surreprésentées dans une volonté justement un peu de défiance. Et on a l'impression parfois, on s'interroge sur, parce que votre auditrice parlait, Lise parlait des réseaux sociaux, des algorithmes, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des mouvances politiques qui sont mieux organisées et qui prennent plus la parole et sans complexe sur les thématiques.
Vous pensez que c'est aussi vrai dans la sphère privée, ça? Je pense à notre premier auditeur qui disait qu'il avait un panel relativement large d'opinions politiques dans la famille. Est-ce que le tabou de l'extrême a aussi été levé dans la sphère privée, pensez-vous, ou pas?
Moi, je dirais que oui, surtout que tout dépend en plus de ce qu'on entend par extrême. Je pense que ce qu'on pouvait qualifier d'extrême à une époque n'a plus cette étiquette d'extrême, pour ne pas citer une candidate en particulier. Oui. Et donc, je pense que effectivement aujourd'hui, ce mouvement de dédiabolisation, lissage, normalisation, nécessairement ruisselle sur la sphère familiale et qu'on a moins de difficultés à dire, tout simplement, parce que, et surtout quand on regarde ce que représentent ces idées, notamment les idées d'extrême droite aujourd'hui dans le paysage politique français, on est quasiment à 30%, voire un peu plus, à un tiers de l'électorat. Donc il n'y a plus de tabou. On n'est pas encore majoritaire, mais quand même.
Marie-Laure, vous êtes à Marseille et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de votre émission. Nous sommes quatre. J'ai deux fils qui vont voter pour la première fois pour les présidentielles. Nous sommes trois. Alors, je suis contente parce qu'ils votent. Voilà, je suis contente parce qu'on y tient. Mais c'est nous bientôt. Moi, c'était la première année depuis, j'ai 53 ans, que j'allais me dire je vais m'abstenir. Mais bon, je vais voter. Mais voilà, on est trois sur quatre à ne pas savoir encore. Et c'est notamment, mes fils, le second qui sait pas, c'est l'aîné, je pense qu'il a son idée, mais au niveau de ce qu'on a vécu même avant Covid, les difficultés économiques, je veux dire, c'est les familles, voilà, nous sommes quatre, mes fils, bon, ils ont réussi à faire pour l'instant des études, mais c'est que, voilà, c'est très restreint, le public, on n'a pas le choix sur d'autres écoles, même s'ils avaient envie, parce qu'on ne pouvait pas. Voilà, on travaille, les vacances, c'est pas toujours, enfin voilà, c'est vraiment le pouvoir d'achat, c'est pas que maintenant, parce que les prix par rapport, c'est une histoire longue, hélas, depuis bien un moment, et je pense que beaucoup de gens, comme j'entends sur les témoignages, sont indécis, ou ne vont pas voter parce qu'on ne voit pas, il y a des mesures, il y a eu des petites mesures, mais c'est pas ça, c'est pas pour se plaindre, parce que je ne suis jamais plainte de ma vie, j'ai jamais eu, on a réussi par le travail à quand même améliorer, mais bon, on part pas tous les ans en vacances, on est quatre. Mes fils n'ont pas connu tout le temps des vacances, loin de là. Et les aides, bon, on est juste entre les deux. Nous, on peut pas y avoir parce que, voilà, on est juste au-dessus. Mais cette situation, moi, ça me, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui, pour l'instant, ne savent pas. Et ça me fait mal au cœur parce que je vois que les jeunes, face à cette situation que vivent leurs parents, c'était pas toujours facile. Hein. Chez nous, on était aussi quatre, il y avait que mon père qui travaillait, c'était famille ouvrière, mais on n'avait pas ce qu'on vit maintenant et ce qu'ils vivent, ce dégoût un peu. En fait, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est terrible de voir ça par rapport à cette jeunesse.
Et
ça,
du coup, puisque vous votez tous, puisque vous êtes tous, Marie-Laure, est-ce que vous cherchez en famille, c'est-à-dire est-ce que ça se passe avec les professions de foi, chacun sur la table de la cuisine, il se passe quoi en fait?
Attendez, mon fils, le second, attendez. Moi, j'ai écouté toutes vos émissions. Je suis France Inter, vos émissions depuis petite. Mon fils attendait de recevoir. On l'a reçu hier les professions de foi des candidats parce qu'il n'avait pas trop le temps. Et puis bon, il attendait. Mon fils est né, lui, c'est déjà. Malheureusement, je pense que par rapport à tout ce qu'on a vécu, il est dur, je dirais. Et si on commence à parler,
ça va être plus dans un vote difficile pour nous. Mais je veux dire, c'est difficile. Vraiment, je veux dire, le côté économique a beaucoup, beaucoup abîmé. Comme disaient les dames, les précédentes interventions, soit ça va être une dispute avec l'office aîné, soit avec, on n'a pas le débat, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat. Le point crucial, vraiment, moi, ce côté économique de gens de 50 ans qui travaillent et qui sont toujours là à compter. Les restos, on ne les connaît pas, les restos. Les cinémas, on les connaît très peu. C'est pour mes fils. Enfin, je sais pas si les gens, ils imaginent certaines personnes, certaines catégories sociales et les politiciens, ce que c'est que de voir tout le temps. Voilà, tout le temps.
Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci vraiment. Et je voudrais vraiment tous vous remercier et vous aussi ici inviter pour cet exercice d'équilibriste permanent qu'on est obligé de faire jusqu'à dimanche, auquel vous répondez parfaitement bien en comprenant exactement ce qui se passe. Mais en plus, entre les lignes, on comprend tellement, tellement de choses. Il est parfait, le témoignage de Marie-Laure, Adélaïde. Enfin, il dit tellement de choses.
Oui, il dit énormément de choses, donc je ne sais même pas sur quoi rebondir. Il dit une chose très importante sur le pouvoir d'achat. Elle le souligne, ce n'est pas un sujet qui vient d'émerger avec la question de l'énergie et la hausse du prix de l'énergie. Nous, on le voit dans les études qualitatives, notamment dans la communauté avec Terra Nova. C'est quelque chose qui est monté en puissance depuis même avant l'été dernier, autour de cette notion. Il y a deux notions, la notion de dignité qui est beaucoup ressortie dans la question de la survie. On nous dit, voilà, nous on cherche pas, on aimerait justement aujourd'hui on survit, on aimerait vivre, on a droit à tout ça. Donc elle dit ça, donc c'est quelque chose de vraiment très important. Et je pense que ce sentiment qu'il y a une incompréhension et puis une fracture aussi entre les élites politiques, c'est ce qu'elle dit, et ces Français qui dans leur chair, dans leur quotidien vivent tout ça. Elle dit ça, elle dit quelque chose aussi de très frappant sur le fait qu'ils sont encore très indécis, à l'exception du fils aîné de Marie-Laure, et cette indécision, elle est effectivement très très nette. On la mesure dans nos enquêtes. On est maintenant à 3 jours du premier tour. On a encore plus d'un tiers des électeurs parmi ceux qui nous disent « je vais aller voter » qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Il y a encore effectivement des électeurs, et c'est ça qui est un peu nouveau, qui ne savent même pas s'ils vont aller voter. Il y a de la volatilité non seulement sur le choix du candidat, mais aussi sur je vais voter, pas voter, je vote blanc, je vote pas blanc. Elle dit plein de choses par rapport à ce qu'on peut ressentir et mesurer plus largement.
Et ce qu'elle dit aussi, Bruno Cotterêts, ce que vous avez déjà souligné au début, au fond, c'est qu'elle ne trouve pas une vision de la société différente d'un candidat à l'autre, en fait. C'est ça qui manque. Est-ce que c'est aussi le fait que depuis plusieurs années, et ça date pas de ces 5 dernières, mais la ligne entre la droite et la gauche c'est beaucoup floutée, et donc du coup ces visions très différentes de la société ne sont plus perceptibles comme elles pouvaient l'être il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années.
Ce qui est difficile, compliqué, c'est qu'en fait quand on regarde de près les programmes des candidats, ils sont assez contrastés en fait. Ils sont contrastés. Il y a de la dimension gauche-droite dans cette élection, elle n'est pas disparue. Il y a de la dimension aussi autour des clivages sur le conservatisme, évidemment. Donc les programmes sont contrastés de ce point de vue-là. Ce que raconte Valérie Pécresse, ce n'est pas ce que raconte Éric Zemmour sur certains aspects. Donc il y a du contraste, effectivement. Par contre, dans le témoignage de Marie-Laure, on retrouve une autre dimension. Il y a non seulement l'idée que la fracture économique introduit chez beaucoup de familles tant de difficultés, mais aussi le sentiment que la politique ne répond pas en face, avec la notion, elle a d'ailleurs noté la notion de dégoût. C'est vrai que nous, dans nos enquêtes, quand on demande aux Français quel sentiment leur inspire la politique en premier, c'est le dégoût.
C'est intéressant parce que on a Eugène sur franceinter.fr qui lui est à l'inverse et s'étonne en fait de ce sentiment que semble-t-il beaucoup de Français ont. Je trouve que cette campagne est très pertinente, nous dit-il. Les candidats ne se ressemblent pas. Il est d'accord avec vous, Bruno Cotterêts. Je ne comprends pas que les autres considèrent qui considèrent qu'il n'y a aucune différence entre eux. Chacun propose une vision qui peut être différente et ça c'est vraiment pertinent. On a aussi un autre auditeur qui s'appelle Simon qui est à Perpignan et qui nous dit on a la chance. De quoi nous plaignons-nous, dit-il en creux, on a la chance d'avoir plusieurs candidats aux États-Unis, ils n'en ont véritablement que 2, par exemple. Donc au fond, pour certains, et parfois, le côté pléthore de candidats, c'est aussi pléthore pour le choix, en fait.
Normalement, c'est une vraie qualité de la démocratie d'avoir beaucoup de candidats, que chaque segment de l'opinion ait un candidat qui le représente. Des fois, on dit qu'il y a des petits candidats, des gros candidats, donc il y a vraiment, chacun peut trouver. Il y a 12 candidats, c'est vrai que ça fait beaucoup peut-être, mais en même temps, ça représente une telle palette de diversité, de profils très différents, ans, de trajectoires politiques extrêmement contrastées. Et donc c'est vrai que normalement, pléthore de candidats ne nuit pas à la démocratie.
Mais en même temps, pardon, allez-y.
Non, j'allais dire d'ailleurs, dans les rares points soulignés à l'égard de cette campagne, ce qui est frappant, c'est que justement, certains ont mis en exergue le fait qu'il y avait eu des efforts pour que chaque candidat puisse atteindre la barre des 500 signatures, avoir ses parrainages, au point qu'il y a eu de l'entraide, et c'est effectivement un point à souligner d'une certaine, en tout cas une idée démocratique assez intéressante.
Et en même temps, et on en parlait ici même récemment quand on parlait spécifiquement d'abstention, on se dit aussi qu'il y a une espèce de petite musique qui dit mais de toute façon, tous les mêmes, de toute façon, les politiques ne savent rien résoudre, etc. Il y a cette petite musique, moi je me demandais, je voudrais faire appel à votre mémoire, Bruno Cotterêts, la dernière fois qu'on a senti un pays enthousiasmé en fait par une élection présidentielle, au fond c'était quand ?
C'est une bonne question. Je pense que chaque élection présidentielle, au cours des dernières élections, il y a eu de grands moments de ferveur et d'enthousiasme. Au fond, si on prend les trois dernières élections présidentielles, avec trois présidents qui vont sortir des urnes, trois styles extrêmement différents, on se rappelle de meetings qu'ils ont organisés avec beaucoup de ferveur chez leurs militants.
Et c'est intéressant ce que vous dites, pardon de vous interrompre, mais on se souvient des noms de meetings. On peut citer, on peut parler du meeting du Bourget, on peut parler de d'autres meetings aussi dans les précédents, Charletti, etc.
Voilà,
Est-ce qu'on le dira pour celui-là ?
C'est peut-être moins évident parce qu'il y a eu moins de meetings, parce que la guerre, le Covid ont continué de dominer cette campagne. Et par contre, si chaque élection soulève de la passion politique, c'est vrai que la lune de miel est de courte durée maintenant. Les trois derniers présidents ont eu chacun une lune de miel courte, voire de plus en plus courte, comme si le lendemain de l'élection, chacun retourne un peu chez lui en disant, ben voilà, maintenant je fais face à mes problèmes de la vie quotidienne, on va m'expliquer qu'on va changer ma vie. Et puis, moi, en attendant, je fais face à mes difficultés.
Mais peut-être que je me trompe, mais que, et puis il y a ce petit côté, c'était mieux avant, qu'on a tous plus ou moins dans un coin de nos têtes, mais nos parents ou nous-mêmes nous ont tous raconté 81 et même 74 avant, enfin ces moments-là où on avait l'impression d'un débat permanent dans la société. Je suis pas sûr qu'on le retrouve aujourd'hui et que ça date pas d'hier en fait, ni de ce quinquennat-là, ni même des deux derniers. Non, qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on a tendance à se dire c'était mieux avant, mais qu'en fait ça n'était pas tant que ça. Et donc même si effectivement il y a eu quelques événements marquants, il y a eu des meetings, mais je crois que c'était en 81 où Le Point a titré pendant la campagne électorale La France baille. Donc il y a eu plein d'autres moments où il y a eu des campagnes qui ont été jugées ennuyeuses. Mais simplement ce que ça dit quand même, je pense, si on se réfère à il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est qu'il y a quand même un affaissement aussi un petit peu des idéologies. Et c'est normalement c'est une idéologie forte autour d'un parti fort qui peut enlever une campagne derrière un homme ou une femme politique. Et là, avec on voit bien qu'il y a des partis qui sont un peu en déliquescence. Du coup, il y a cet exercice de la primaire qui permet de désigner un leader, mais qui n'a pas vraiment de leadership. Et du coup, tout ça ne participe pas à créer la ferveur populaire qu'on pouvait connaître dans les années 70 ou 80.
Écoutez, il reste 3 jours en tout cas pour se décider. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à tous encore une fois d'avoir joué le jeu de cet exercice d'équilibriste compliqué, mais ma foi, néanmoins efficace. L'heure bleue et l'heure Adler, c'est dans 5 minutes avec Nancy Houston, l'écrivaine franco-canadienne. Il sera 20h bientôt.